Ray Lalonde s'amène. Bonjour, Ray.
Bon matin, Paul.
Salut, Ray. On avait annoncé...
Salut, Yannick. Bonjour, Thérèse.
Salut.
On avait annoncé cette semaine qu'on devait confirmer que Edmonton et Toronto seraient deux villes bulles pour présenter le tournoi de retour de la Ligue nationale de hockey. Mais ça n'a pas été confirmé encore.
Ça n'a pas été confirmé parce qu'on est encore en train de finaliser les négociations à un haut niveau, Paul. Parce que soudainement, là, on s'est dit, voilà l'occasion d'insérer dans une grande conversation tous les éléments, tous les enjeux qui restaient un peu en suspens, y compris le renouvellement de la convention collective. Alors, les dirigeants de la Ligue ont simplement décidé d'avant de procéder à l'annonce officielle du retour, parce que, Paul, je te répète, il va falloir que les joueurs votent quand même sur les modalités du retour au jeu. On est proche, puis on espère qu'ils vont voter favorablement. Mais là, on va annoncer officiellement que Edmonton et Toronto sont les deux villes finales.
OK. Alors, Yannick Bouchard nous a rappelé que, normalement, au cours des dernières semaines, on avait avancé les dates des 23 et 24 juillet pour le retour sur la glace. Mais Yannick nous disait, ça va aller quoi, début août maintenant, Ray? On a repoussé le retour des joueurs.
Oui, c'est un autre point aussi, un facteur de patience puis d'attente, parce qu'on dirait qu'on veut continuellement s'acheter quelques jours de plus au cas où la situation pourrait changer. Fait qu'il y a une énorme prudence. Là, on est rendu à un camp d'entraînement le 13 juillet, une arrivée à Edmonton ou Toronto le 26 juillet, début de la saison le 1er août, et on a aussi inséré là-dedans, là, le 10 août, le moment ultime, c'est-à-dire... Parmi les équipes qui seraient éliminées dans ce tour de qualification-là, la loterie suivante pour Alexis Lafrenière.
Oui,
donc, on n'aura pas à attendre trop longtemps.
Non, la loterie suivante, il y a des dates qui ont été avancées par Frank Cervelli, entre autres de TSN, qui dit que la deuxième phase de la loterie pourrait avoir lieu le 10 août. Mais je reviens, Ray, à cette association qui va dans le bon sens entre les joueurs et les dirigeants de la Ligue nationale. Tout... T'es au beau fixe, semble-t-il, depuis l'interruption des activités le 12 mars dans la Ligue nationale de hockey. On entend Gary Bettman dire « On travaille main dans la main avec l'association des joueurs. On veut prolonger la convention collective. On parle de l'escroc, l'argent mis en fiducie par les joueurs. On parle également de cette possibilité de revoir éventuellement, à compter de 2022, les joueurs aux Jeux olympiques, et ça, les joueurs y tenaient mordicus.
Oui, bien, il y a plusieurs facteurs que tu as mentionnés, mais je veux souligner d'abord la bonne relation qui existe entre Donald Fear, qui est le directeur exécutif de l'Association des joueurs, et Gary Bettman. Ça n'a pas toujours été un bon climat là, entre le dirigeant et Bettman, et là, ça l'est. Parce que quand tu regardes ce qui s'est passé au baseball, la rivalité entre Tony Clark et Rob Manfred, le commissaire, ça a été pénible. Ça a été même un peu... difficile en termes de relations personnelles. Mais les gars au hockey s'entendent très bien, puis c'est de bon augure. Parce que même si les joueurs trouvent, parce que ça, je le sais de l'intérieur, là, que Bettman a réussi à faire un peu virer Donald Fear plus rapidement, ou Donald Fear concéder des choses que les joueurs ne voulaient pas concéder, pour le bien collectif, en ce moment de crise, c'est important qu'il y ait de l'harmonie entre les deux. Et ça s'est réglé.
Alors, mais c'est un point très sensible. Le retour... des joueurs de la Ligue nationale au tournoi olympique. D'abord, premièrement, les Jeux de 2022, c'est à Pékin, donc c'est un marché immense, bien entendu. Quelles sont, je dirais, on est deux ans avant, là, quelles sont les probabilités, selon toi, Ray, d'un retour 100%. Des joueurs?
Ouais? 100%.
Ah oui.
Oui, parce que, Paul, je pense que c'était un des enjeux, comme Yannick l'a bien mentionné, qui irritait les joueurs depuis Pyeongchang. Les joueurs n'ont pas apprécié du tout pas pouvoir aller. Tu sais, il y a un élément chez les joueurs qui est quand même humain.
Surtout les joueurs européens.
Oui, absolument. On veut représenter notre pays. On veut participer aux Jeux olympiques. Ça fait partie de la culture. Des gars comme Alex Ovechkin, lui, jouer pour la Russie, c'est plus important que jouer pour les Capitals. Alors, ça, on peut le dire. Même si les Capitals défraient son salaire, il reste que pour lui représenter son pays. Alors, c'est comme ça aussi pour les Canadiens. C'est comme ça aussi pour les Américains. Le tournoi olympique, la chance de gagner une médaille d'or... d'être considéré avec tous les autres athlètes, bon, amateurs, professionnels dans le monde, et surtout, sur le plan économique, quelle vitrine! Tu t'en vas à Pékin, tu sais, il y a 1,5 milliard d'habitants en Chine.
C'est sûr.
Le monde entier regarde le tournoi olympique, même s'ils ne sont même pas des fans de hockey. C'est l'occasion pour la Ligue nationale de mettre sur une vitrine leurs meilleurs joueurs au monde.
Oui, et ça paraît pas, mais la Chine, évidemment, avec sa population, a un plan de développement de hockey sur glace très sérieux, depuis plusieurs années.
Oui, ils vont avoir une équipe qui va être composée de joueurs avec des antécédents canadiens et chinois, entre autres. Mais depuis des années, comme tu l'as dit, Paul, ils se préparent.
Ouais.
Ils se préparent dans tous les sports. Parce que ce que la Chine veut, dans un tout autre ordre d'idée, là, la Chine veut dominer le monde entier dans le sport d'ici 2050. Et ils l'ont dit, ça. Ça a passé dans le New York Times, ça a passé dans le Wall Street Journal. Et ils mettent en place des programmes aujourd'hui, depuis des années, avec les tout-petits-enfants dans les maternelles, des académies de sport de haut niveau où on investit parce qu'ils veulent gagner la Coupe du monde de foot.
Imagine.
Ça, c'est leur objectif ultime.
Alors, on va terminer avec le football, puis on va y aller en rafale. Quand je dis le football, on parle du football de la NFL.
Bien sûr.
Mm-hmm. Les matchs préparatoires qui devaient débuter début août, ça devait commencer par Dallas contre Pittsburgh, seront réduits de moitié.
Oui, on a coupé le match du Temple de la Renommée à Canton, Ohio. Et le Steelers-Cowboys est allumé. On est rendu à 2 au lieu de 4, Paul. Je ne suis pas certain qu'on va jouer 2 matchs pré-saison. Puis je te le dis parce que je ne suis pas certain que les camps d'entraînement vont commencer le 25-26 juillet comme c'est prévu. On s'en va complètement dans le mauvais sens par rapport à l'Amérique.
Alors, je disais, on y va en rafale. De plus en plus de pression pour que, et ça, ça date pas d'hier, ce débat, pour que les Redskins de Washington changent de nom, bien entendu, à cause de l'expression « Redskins » qui est très négative à l'endroit des Premières Nations.
On s'en va dans cette direction-là, puis pour la première fois, le propriétaire Dan Snyder a réagi avec une ouverture d'esprit. Puis pourquoi? Parce que FedEx, qui est le détenteur du nom sur le stade des Redskins, a mis beaucoup de pression hier pour que les Redskins agissent plus rapidement. On va avoir une rafale, Paul, de changement de nom, à mon avis, dans les 5 prochaines années.
OK.
Oui.
Ah, oui.
Non, mais effectivement, les Indiens de Cleveland également songent peut-être à changer de nom. Ton équipe, Paul,
les Blackhawks
de Chicago, éventuellement.
Les Eskimos d'Edmonton.
Les Braves
d'Atlanta.
Et t'as raison, les Eskimos d'Edmonton également.
Oui, et pour revenir au football, on parlait des matchs de préparatoire réduits. Cam Newton avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Un an, salaire minimum. Pour quelle raison, Ray?
Écoute, Paul, pour rappeler aux gens, là, il a gagné le trophée MVP en 2015.
Non, il faut le dire, un quart prodige.
Absolument.
Qui devait dominer la Ligue et amener les Panthers à la victoire.
Premier choix au repêchage de la NFL en 2011, MVP 2015. Il a amené son équipe au Super Bowl. Dans un sens, il me fait penser beaucoup à Colin Kaepernick.
Oui, parce qu'il y avait des capacités de porteur de ballon.
Athlétique.
Athlétique.
Et puis, ce qui arrive, c'est que là, il était blessé, puis quelques chirurgies, et soudainement, Paul, écoute, le salaire moyen dans la NFL pour les quarts arrière, là, c'est à peu près 12 à 14 millions. Il y a des gars qui en gagnent 32, comme Ben Roethlisberger, comme Aaron Rodgers. Et lui, on lui a payé le minimum ou presque cette saison pour les Patriots. Beaucoup des Patriots, mais un peu injuste. Là, il y a une possibilité d'aller chercher des bonnies jusqu'à 7 millions, mais il part littéralement en deçà d'un million de dollars. C'est complètement incroyable.
On va s'en garder pour demain. Ray, tu seras de retour. Merci beaucoup.